Alors, pour la causer cette semaine, on pensait parler du téléphone à Dan, mais comme je partais la toune, il l'a calissé à terre.
C'est le move de Jeff qui fait. C'est le move de
Get Range.
Pitcher de l'argent.
Pitcher de l'argent avec mon téléphone.
Ouais.
Nope. Non, il est correct.
Alors cette semaine, à la causeuse, on parle de Synthwave.
On se garde.
Exact. C'est moi et Jeff qu'on est comme. Hey, c'est nice, Synthwave. On va parler de Synthwave. Non, on veut parler, en fait, de ce que ça représente un peu. Parce que le Synthwave, c'est.
Ben oui, allez-y, les gars, éduquez-moi. Là,
mais le Synthwave, qui, en faisant des recherches, on essaie un petit peu comme de bien le définir et de voir d'où ça vient. Parce que, on le sait, c'est cette musique-là là, qui sonne, en fait, à peu près toute, un petit peu, à quelque part, comme ça. J'ai pas le goût de l'arrêter, mais on va se faire couper sur YouTube.
Fait quoi? Fait que c'est un genre de musique électronique qui est grandement influencé par la sonorité de la musique des années 80, particulièrement des trames sonores de films.
Surtout celle de John Carpenter.
John Carpenter.
Qui faisait lui-même la musique dans ses films, puis qui a justement beaucoup poussé ce genre de fait son-là.
Exemple de film genre The Thing.
Bien sûr. Big Trouble Little China. Ouais. Quand on peut Escape from LA, des trucs comme ça.
Mais ouais, c'est ça. Snake Plissken.
Ouais.
Très, très synthwave.
C'est ça. Fait que, puis soudainement, 30 ans après le fait, comme beaucoup de modes font, cette musique-là revient, mais avec un sens nouveau, puis avec une image qui est plus définie. Parce qu'avant, cette musique-là, oui, la version, je pense que c'est la façon la plus facile de définir, de dire c'est la musique inspirée de soundtrack des films à la John Carpenter, mais soudainement, elle est forcément dans le même sérieux, dans le même dark, dans cette même espèce de vision pessimiste du futur que représentait cette musique-là des années 80. C'était les gros synthétiseurs, mais soudainement, ça se doit d'être dark.
Il y a une image avec ça. On est tout le temps la nuit, c'est tout le temps la même couleur de palette, magenta, cyan, et je sais pas ce qu'est le nom du bleu, le nom du vert, teal.
Du teal, bon, bref, du turquoise, du magenta.
Toutes ces couleurs-là, c'est tout le temps des
néons.
Ouais, des DeLorean, des Lamborghini.
On y pense, les yeux brûlent un petit peu.
T'sais, les espèces de dégradés de couleurs, les effets de chrome. Toute cette vague-là, genre très, très moderne des années 80.
Je trouve ça fun, les gars, que vous soyez revenus dans mon segment Shadowrun.
Voilà. Mais à quelque part, oui. Puis à quelque part, c'est ça, c'est ce que ce futur sombre-là évoquait. Puis tu sais, c'est rendu... Aujourd'hui, c'est forcément une parodie, tu sais. Fait qu'autant que cette musique-là est un peu en joke, forcément, ça représente quelque chose qui n'existe pas, puis un intérêt qui n'existe plus, mais le son fait partie probablement de notre bagage, puis il y a de quoi qu'on aimait, parce que c'était partout, tu sais. Puis ouais, ça représente aussi une époque où les films se prenaient moins au sérieux, qu'il y avait une notion de fun au divertissement, que même quand c'était dark parce que c'était le fun. Pas parce qu'on voulait être dramatique puis sérieux puis parler de sujets importants puis de c'était beaucoup de parodies puis c'était très très tu sais même RoboCop était essentiellement une parodie tu sais de société puis tout oui. Ça a de quoi dire mais ça se prend vraiment pas au sérieux.
Le ton restait léger.
Exact. Alors, les films d'action étaient là pour avoir du fun. Puis je sais pas ça me fait penser à ça puis je pense que c'est ça que ça évoque pour notre génération, parce que c'est forcément quelque chose qui vient de nous, du monde de notre génération.
Mais c'est quelque chose qui nous a marqué dans notre jeunesse. Puis en fait, tu t'as dit que ça fait comme 30 ans, mais en fait, c'est arrivé, ça fait 20 ans, parce que ça a commencé dans le début des années 2000 sur Bandcamp, sur MySpace.
Oui, sure.
Le début du Synthwave. Puis au début, ça a parti dans la même niche. On a déjà parlé du Vaporwave. La musique qui est faite avec des jingles de publicité ou les sons de Windows XP, ces choses-là. Ça a parti dans la même niche où des gens qui commencent à faire de la musique disaient hey, on reproduit ces sons-là pour le fun. Sauf que bon, le Synthwave a pris de l'ampleur, contrairement au Vaporwave, malheureusement.
Mais
ça a pris de l'ampleur. Puis aujourd'hui, c'est rendu de plus en plus reconnu. Il y a eu des jeux vidéo
Mais c'est que ça représente une culture semblable.
Oui, mais ça a percé à travers ce qui est populaire, puis ça a traversé des publics peut-être qui sont moins niches, avec des jeux vidéo comme Far Cry, Blood Dragon, qui était toute la trame sonore était une trame sonore synthwave.
Puis on parlait des couleurs tantôt, puis du néon, là, comme tu pars le jeu.
C'est ça, il y avait l'esthétique complète.
Qui ont été cherchés justement, là, on avait parlé, là, mais Michael Biehn qui fait la voix du personnage principal, qui est un throwback directement au fait qu'il a joué dans Terminator.
Moi, j'ai parti le jeu, mon écran a fondu.
Nice.
En fait, la trame sonore qui est faite par Power Glove, qui est un des les grands artistes de ce genre-là.
C'est ça, puis encore une fois, pour appuyer ce que ça représente, là, des artistes avec du nom de Power Glove, Future Cop,
Carpenter Brut, en lien avec John Carpenter, Time Cop 1983.
Oui, c'est vrai.
Non, mais la subtilité, non. C'est...
Mais exact, puis c'est ça, c'est un peu gaudy, c'est un peu genre. C'est volontairement dans ta face, c'est volontairement ridicule, puis c'est cool. Justement, c'est ça qui rend ça comme... Ouais. C'est un peu contre le courant qu'on a eu pendant... Tu sais, j'imagine, mettons, qu'est-ce qui s'est passé pour nous qui a grandi avec ces films-là étant plus petits? Puis là, t'as soudainement eu la vague des... Je vais partir avec genre Gladiator, Lord of the Rings...
Oh ouais,
toute cette époque grise foncée-là, là, tu sais. Toute cette époque, c'est cool, c'est super intéressant, mais tout sujet méritait d'être pris au sérieux.
L'époque gris foncé, là, je trouve que c'est une belle façon de le définir. Là.
C'est ça. Puis là, c'était comme, ouais, mais il nous manque quelque chose. Puis un peu aussi la palette genre, de couleurs excessives. Oui, c'est un throwback aux années 80, à l'abus du néon, aux voitures sport avec des lignes complètement flyées, si on pense aux Lamborghini et tout ça. Mais en même temps, ça nous ramène aux palettes de couleurs des Nintendo et tout ça, que un jeu ne peut pas être si sombre que ça. Là. Sa palette de couleurs était éclatante. Là. Donc,
c'est ce que t'avais.
C'est ça. Fait que ça nous ramène tout là. T'sais. Ça nous ramène à tout ça musicalement, mais ça s'inscrit forcément dans cette ligne-là de... je pense qu'on est devenu trop sérieux, puis on s'ennuie un peu de tout ça.
Ouais, mais
moi, je pensais que, dans le fond, c'était vraiment comme un style musical des années 80, mais pas en tout. T'sais.
Non, du tout.
Ben, inspiré non,
c'est
de
ça,
mais.
Exact. Mais ça, il n'existait pas tel quel, cette chose-là. C'est vraiment comme une.
On avait la discussion là, quand on se préparait avant le pas tantôt. Puis, tu sais, justement, Matt disait, c'est un style qui est nouveau, qui n'est pas des années 80. Puis, je suis comme, ouais, mais tu sais, puis là, j'ai fait jouer du Donna Summer avec I Want the Love, je sais pas trop quoi. Ouais. C'est au complet fait par Giorgio Moroder qui a enregistré l'avant-dernier album de Daft Punk. C'est des. Puis, t'écoutes la trame sonore, c'est du synth wave, c'est ça qui les a inspirés. Puis ça remonte loin, ça remonte, t'sais, l'inspiration derrière ça, on dit John Carpenter, il y a Jojo Moroder, il y a Tangerine Dream, t'écoutes du Tangerine Dream, ça sonne comme beaucoup d'enregistrements aujourd'hui. Le jeu d'arcade Outrun, en 86, qui avait une trame sonore qui était très très dans ce style.
Mais
c'est ça,
mais là, faut faire attention parce que, évidemment, dans les jeux vidéo, t'as forcément le synthétiseur qui était littéralement le seul instrument qu'ils ont. Là.
Ouais, mais
fait que c'est pas du synthwave, bon, c'est pas de la musique synthétiseur par choix.
C'est pas un genre qui existait dans ce temps-là, mais c'est un son qui existait dans
c'est ça.
Puis on est allé rechercher le son.
Mais c'est là, c'est le côté où il y a à peu près juste des bandes son de film, par contre, qu'on peut retrouver le côté très très lourd et dramatique.
Oui.
Genre le côté post-apoc, finalement. Le côté cyberpunk, là, on va le dire, là, que le synthwave aujourd'hui a comme. Ça existe pas sans ça. Là. J'ai pas vu une toune de synthwave joyeuse. Là. Genre, même quand ils sont cool, ils sont pas joyeuses. Les choix de progression, etc., whatever. Tous les accords sont fucking dramatiques quand il y a des accords. Sinon, ils font juste comme des petites mélodies avec un séquenceur qui fait un arpège qui doit être sad. Non, c'est ça, c'est vraiment comme.
Mais moi, je trouve, d'un côté musical, ce que je trouve intéressant, c'est, si on pense à la musique, là, ça a explosé, comme toute la technologie, il y a eu une explosion incroyable au 20e siècle. Puis on part de début 1900 avec le blues, le jazz, puis là, ça évolue, le jazz fusion, ça grossit, puis là, arrive le rock qui commence à s'installer, arrive Led Zeppelin qui amène le hard rock, puis on cherche tout le temps à aller plus loin, à repousser les sons, avoir des nouvelles sonorités. On pense à un Deep Purple que tout le monde connaît, mais pas grand monde qui savent que il jouait dans un ampli de guitare défoncé avec des clous à travers parce que on veut des sons, on veut que ça sonne différent.
C'est-tu eux autres qu'il l'avait droppé une fois puis il a fait comme Chris, ça sonne bien? Puis
ouais, mais c'est ça. Ben non, il a joué la première fois, il l'a défoncé puis il a fait je l'aime mieux comme ça. Avec son orgue. Mais c'est tout le temps la recherche de sons. Pour nous arriver dans les années 80 où c'est. Pour moi, les années 80, c'est comme si on est allé trop loin dans cette recherche-là.
Ben parce qu'on a eu les synthétiseurs où est-ce qu'on pouvait finalement. Genre, dialer un son.
Mais les synthétiseurs étaient là avant. Les synthétiseurs sont arrivés dans les années 70. Il y a toute la musique disco. C'est le début des synthétiseurs qui étaient utilisés avec goût. Puis là, tout d'un coup, on a poussé ça trop loin. Je pense que ce qui a vraiment tué la musique sur les années 80, c'est le séquenceur. Parce que tout d'un coup, j'avais plus besoin de quelqu'un pour le jouer, mon instrument. Fait que là, c'est la fin des bands, un petit peu. Là. C'est là que tous les groupes ont commencé à se dissoudre. C'est au Québec, c'est l'arrivée des Ginette Reno, Céline Dion. Tous ces gens-là qui, tout d'un coup, chantent. Je te market toi, je te vends toi, puis tu auras des synths et des instruments que j'ai derrière toi. Fait que c'est ça qui a un petit peu tué la musique. Mais ces instruments-là qui étaient utilisés dans ce milieu-là pour remplacer des musiciens qui sonnaient pas vrai. Mm-hmm. Parce que c'est pas un vrai piano, c'est pas un vrai violon, mais ça coûte pas cher, puis good enough, ça fait la job. Mais il y a des artistes qui ont pris ça, puis qui s'en ont servi pour faire un son, puis qui ont sorti un son de ça.
C'est ça, mais un outil, c'est un outil. Hein?
C'est ça.
Faut l'utiliser de façon intelligente.
Sauf que l'époque, la décennie dans laquelle ça a eu lieu, ça a été la décennie du spray net, des couleurs fluo, le reverb, c'est la décennie du too much. Là. Mm-hmm. On l'a pas tant vécu parce qu'on était trop jeunes, mais il y avait trop... T'écoutes la musique des années 80. Là.
C'était effectivement la décennie du too much. Cette expression-là vient exactement de cette décennie-là.
Et voilà. Mais t'écoutes la musique, là, on pense à l'année des années 80, on a un son de snare drum qui fait... qui est trop grand.
Les snares renversé là.
Ben c'est ça, reverb à l'envers sur un snare qui fait que tout est trop gros, tout prend de la place, les Duran Duran, les Tears for Fears, les reverb, les synthétiseurs, les voix par-dessus, les cheveux crêpés, tout est trop. Puis ça a écœuré les gens. Puis tu sais, c'est pas étonnant pour moi que tu arrives dans les années 90, puis il y a un genre de retour aux sources avec le grunge, avec tout ça, où on retourne à une guitare, un ampli, un drum, puis plus d'effet, plus rien, c'est raw, c'est sale. Puis là, on commence à retourner dans cette recherche-là. De plus en plus, ces styles-là reviennent. On fait, il y a peut-être de quoi de bon. Peut-être qu'on a exagéré, mais il y a peut-être des sons intéressants dans ce qu'on faisait. Puis là, les synthétiseurs vont revenir. Puis de plus en plus de Ben, électro, de Ben reviennent. Honnêtement, moi, je donne une grosse partie de ça au hip-hop. Là, avec tout ce qui est les DJ, avec tous les MC qui composaient des beats, qui ramènent les synthétiseurs. Ça les a ramené ça un goût de jour. Puis tout d'un coup, tu as plein de Ben qui commencent à utiliser des sons de synthétiseurs dans le tune. C'est de plus en plus populaire. Ça reprend la place. Fait que ce mouvement-là, au début des années 2000, qui a apparu full underground sur Internet, qui était comme le meilleur médium pour la diffusion à ce moment-là, là, les gens commencent à l'entendre, l'incluent dans des films comme Drive, qui a quelques années, où la trame sonore au complet est faite par Kavinsky, qui est un des plus grands artistes du mouvement Synthwave. Les jeux là, reprennent ça. On a Kung Fury récemment qui avait l'esthétique complète du style puis qui ramène
t'as parlé David Hasselhoff au bout de Joe. Du jeu Fury. Qui a comme, c'est plein d'artistes Synthwave. Ouais. Je me trompe pas. Puis c'est vraiment comme des top tier, genre des kings de Synthwave qui sont sur le soundtrack de ce jeu-là. Mais justement, il y a un... Ben, tu sais, c'est ça, je pense que... Je comprends ce que t'apportes, mais je pense qu'il y a vraiment comme... Oui, la musique des années 80 était vraiment comme baignée dans l'excès puis dans le tout croche. Sauf que, comme toute chose qui n'est pas forcément bonne, qui a fait partie de notre jeunesse, on en a une certaine affection.
Ouais, c'est ça, c'est l'aspect, l'effet nostalgie.
On avait une nostalgie, une affection qui fait en sorte qu'on revisite ça, qu'on fait « Hey, ça pourrait être mis... » Ça pourrait être mis actuel, ça pourrait être transposé aujourd'hui, puis en faire quelque chose de pas cheesy, de pas quétaine.
On l'aime encore parce que c'est un peu quétaine.
On le garde, sauf que les sons, les instruments utilisés, eux, ils ne sont pas quétaine. C'est pas parce que tu utilises un Korg Polysix ou un Voyager, c'est pas parce que tu utilises ces synthétiseurs-là que tu es quétaine.
Ils inventent des mots, t'sais. Là.
Yup.
Un Voyager, c'est dans Star Trek.
Ah, ok, ouais, c'est ça. J'ai encore le drop de dernier épisode, tu peux tout le repartir.
C'est pas les instruments qui sont quétaines, c'est la composition que t'en fais. Il y a une volonté des artistes synthwave de volontairement composer de la musique comme t'as fait jouer tantôt. C'est comme, ok, mon Dieu, ça sonne années 80. Oui, mais parce que c'est comme ça que c'est voulu. Fait que, oui, le mouvement surfe un peu notre nostalgie, mais le son, par exemple, il est pas limité au synthwave. Tu allumes la radio, tu vas en entendre. Tous ces sons-là sont de plus en plus populaires. Daft Punk est plus populaire qu'ils ont jamais été. Puis on écoute la trame sonore de Tron, le deuxième film Tron. La trame sonore, si c'est pas du synthwave, on n'est pas loin.
Tron Legacy, le soundtrack, aussi pourri que le film soit, le soundtrack est incroyable. Là. C'est énorme. Là. D'un côté, moins technique, je pense que forcément aussi, la chip music, c'est quelque chose aussi. Le fait de faire sonner un fucking chip 8-bit, c'est acceptable. Tu sais, je pense à tout le monde qui fait comme « Ah, le style du Nintendo, ça gratte les oreilles, je suis pas capable. » Il y a du monde qui compose volontairement avec ça aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est rendu... C'est un genre...
Mais pour moi, ça fait partie de ce cycle-là de... On part avec de la musique, on cherche tout le temps un nouveau son, puis là, on évolue. C'est immanquable. Je le prédis, dans 10 ans, dans 15 ans, il va y avoir un retour en arrière, puis on va revenir à une musique qui est plus sobre. Puis on va passer à travers une phase flyée.
Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est sûr, ça dépend qu'est-ce que tu regardes. Parce que je pense que ça vit toujours parallèlement. Là. T'sais, il y a toujours un besoin de sobriété à quelque part parce qu'il y a du monde, c'est comme ça les intéresse pas, ce genre d'excès-là. Puis t'sais, on est pas dans une des plus grosses époques pour le folk.
Tu regardes le top 40, là, tu regardes ce qui joue à radio, tu regardes c'est quoi qui est le plus populaire, là, t'sais, ce qui est commercialisé par les grandes radios. Tout le monde écoute de tout aujourd'hui.
Ouais, il y a ça. C'est vrai que c'est plus que jamais ce qui fait les charts est vraiment, vraiment divers.
Ouais.
C'est vrai. Mais comment tout ça, dans le fond, genre, moi je trouve, en fait, la meilleure façon de décrire, je trouve, le synthwave, c'est que c'est la bande-son d'un futur qui est jamais arrivé.
Ouais.
Je trouve que c'est comme tout ce que les années 80 nous promettaient que le futur allait être, puis qu'ils n'ont pas essentiellement eu tort. En fait, cette image-là n'est pas fausse. La fameuse image de Shadowrun à son inception. T'sais, on parle des grosses corporations qui mènent le monde, puis que l'écart des classes est hyper prononcé, puis qu'il y a plein de technologies qui pourraient simplifier la vie de tout le monde, mais qui n'est pas accessible aux classes moyennes et moins. T'sais, toutes ces images-là qui étaient comme. Ben, je parlais de Robocop, là, Shadowrun aussi.
On pourrait parler de The Circle, un film que j'étais voir au cinéma. J'en ai parlé l'autre fois.
Ouais.
Mais on parle pas de Stranger Things.
Pour la bande-son, Chris, même.
Mais pas juste la bande-son, l'année dans laquelle ça se passe, le thème, ils jouent à Donjon Dragon.
Ça aussi, c'est un. Ça se présente aussi comme la fameuse lettre d'amour que je dis que c'est que fueled dans de la nostalgie. Puis, tu sais, quand ça arrive. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est exactement ce que c'est. Elle s'adresse juste à ceux que ça intéresse. C'est là que ça devient un peu plus comme. C'est plus du fan service d'une génération, generation service.
Sauf que les gens qui s'intéressent, c'est les gens qui aujourd'hui sont le marché.
Exact. Oui. Sauf que tout ce qu'on a parlé à date, tout ce que tu as présenté même à date au niveau des synthétiseurs du synthwave, c'était vraiment plus comme une perspective de la valeur artistique de ça aujourd'hui. Ce qui est super intéressant. Puis même l'idée d'en faire comme un. Tu sais, comme je disais, c'est. Genre, ça n'a jamais été aussi glauque, aussi dark, ce genre de musique synthétiseur-là, qui en général n'a même pas de parole. Tu sais, c'est beaucoup une bande-son pour un futur qui n'est jamais arrivé, comme je disais. Tu sais, ça représente un feeling particulier. C'est une. Tu sais, ça a une valeur artistique dans le sens que c'est un genre musical qui représente une émotion qui n'est pas servie par d'autres musiques. Tu sais.
Oui.
Puis c'est ça, fait que ça a une valeur artistique dans cet angle-là. Mais quand c'est comme Stranger Things, c'est juste un hommage. T'sais. Même l'histoire de Stranger Things, est à la limite excessivement peu originale.
Non, c'est sûr.
C'est un pastiche, là. C'est juste tout mis ensemble. Autant que tu trouves ton bon client, ça va marcher.
Mais c'est un pastiche, mais qui nous ramène à l'époque, on dit tantôt, des films où c'était pas compliqué, c'était juste pour le fun.
Que ça se prenait moins au sérieux.
Il essaie pas de nous faire réfléchir, puis nous faire. T'sais...
Bon, hey, mais tu reviens au synthwave, là, parce que là, t'es en train de partir un peu trop loin, puis j'ai comme pas assez réfléchi à Stranger Things pour comme avoir une opinion. Synthwave, avez-vous des suggestions, mettons, quelqu'un qui voudrait comme partir une playlist, quelque chose? Parce que moi, t'sais, j'en écoute un petit peu, puis ça m'intéresse, là, mais...
Moi, personnellement, je suis moins dans la grosse vague de synthwave full atmosphérique. Je comprends ce que ça représente, justement, d'où ça vient. Mais moi, j'aime beaucoup quand même melody-driven, j'aime une toune. Fait que moi, personnellement, mon band, sans hésitation, Dance with the Dead, ils ont toujours une guitare, ou presque toujours des guitares par-dessus, ce qui fait qu'il y a des grosses mélodies, genre un peu braillantes, rock, là. Fait que c'est... Je trouve que c'est ce qui s'écoute le mieux. Là. Leur top 10 est juste débile. Puis étrangement, je vais mettre le soundtrack de Pinout, le jeu que j'ai déjà parlé ici. C'est un jeu de pinball. Le soundtrack lui-même vaut la peine. Puis il y a des tunes avec des paroles. Puis tout le soundtrack comme coule un dans l'autre de par la nature du jeu. Mais c'est un soundtrack qui s'écoute super bien. Bonne musique pour aller courir, dit-il par expérience. C'est vraiment dans les. en fait, les deux belles viennent nommer, c'est beaucoup de la musique.
Le synthwave, c'est de la bonne musique pour. Conduire, courir, n'importe quoi qui...
Tempo fixe.
Ouais, hein, ça te drive en avant. Tu sais, moi, je dirais... Sûrement. Why not?
Courir, là.
Courir. Moi, je dirais Perturbateur. Perturbator.
Ouais.
C'est un OR à la fin, là. Ouais. En fait, l'album Uncanny Valley, puis l'autre d'avant, les deux derniers albums de Perturbator. Ou sinon, Carpenter Brut.
Évidemment.
Moi, c'est mes deux tops, là.
Puis toi, dans tes suggestions? Okay.
Non, pour vrai, j'en connais pas assez pour rien dire. Je trouve ça intéressant. Quand j'en entends, je trouve ça le fun à écouter. J'ai jamais vraiment pris le temps de juste en écouter, pas juste dans comme trame sonore de quelque chose.
Ah, puis en passant aussi, j'ai découvert Dance with the Dead. En fait, je l'ai pas découvert là-dedans, mais je me suis rendu compte comme après que j'avais commencé à en écouter que dans le jeu en VR Holoball, qui est maintenant disponible aussi sur PSVR, qui rend toujours les suggestions de jeux VR plus accessibles. Holoball, il y a deux ou trois pistes. Je pense que c'est trois pistes différentes qui jouent dans le jeu et c'est toutes des tunes de Dance with the Dead. Puis je commence à en écouter, je fais « Fuck, ça me dit quelque chose. » Et ah, c'est les tunes de Holoball, tu sais, qui est toute Tron-esque, qui est toute néon. Ouais. Puis avec du gros, c'est tellement une atmosphère incroyable en VR parce que, comme je disais, t'es dans ce futur-là. T'es dans la réalité virtuelle telle qu'on se l'est fait présenter au départ. Les grosses affaires néon à la Tron.
Shadowrun.
Ça a pris la matrice dans Shadowrun. Ouais, ouais. C'est ça, ça a pris 30 ans pour réaliser avec cette vision-là.
Des formes géométriques. La matrice à Shadowrun, au départ, là, tu disais, mettons, les premières éditions, là, c'était des formes géométriques simples. Là, je veux dire, ouais, la matrice était regardée par une grille comme des cubes, des boules, puis des pyramides, mais à base carrée. Tu sais, genre...
Ah, t'as des formes de base, là, des fait formes
ça,
de
ça
base.
Fit, là. Tu te l'imagines, puis t'entends la musique de Synthwave que t'as fait jouer tantôt en même temps, puis on...
Fait que c'est ça. Fait qu'évidemment, je le sais, j'ai déjà eu des discussions avec du monde qui nous écoute, qui sont des mecs de Synthwave. Suggérez-nous-en, puis offrez-nous votre perspective sur la valeur du Synthwave, ou dites juste, on s'en crisse, on aime juste s'en écouter, ou pourquoi vous écoutez ça, c'est plate.
Puis sinon, pour ceux qui connaissaient pas ça, si vous avez envie de vous sentir vraiment badass, si vous avez envie de conduire votre char comme s'il y avait des grosses explosions en arrière pendant que vous échappiez genre dans une mission secrète,
ben, à déménager à Saint-Lin.
Ou, si vous voulez vous éviter toute cette misère-là, on s'excuse pour les
Saint-Lin. On parle du déménagement, là. C'est chiant.
Voilà. Et voilà. Non, mais le Synthwave, donnez-y sa chance.
Et voilà. C'est une conclusion.
Donnez-moi ma... Non, c'est pas de Synthwave.
Si quelqu'un fait tout, 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 en arrière, oui, ça en devient. Bon, sur ce cover incroyable, ben bonne semaine.